France Info.
Bonjour Thierry Marx.
Bonjour.
L'histoire à la carte replonge dans les années 50, le rockabilly réveille l'Amérique. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. Elvis Presley, évidemment, That's Alright Mama. Quelle est la situation de la gastronomie depuis la guerre? Puisque là, on est période après-guerre quand même, Thierry Marx.
On est d'après-guerre, mais on n'est pas encore loin des restrictions. La cuisine, la gastronomie se réinvente. D'ailleurs, Kurnonsky l'explique très très bien, prince des gastronomes, grand chroniqueur gastronomique. On a repris le sens du métier, c'est-à-dire qu'on donne de la valeur ajoutée à des produits qui sont pas trop chers. Donc on va voir arriver le grand restaurateur qui est Fernand Poing.
Alors avant de développer tout ça, juste un mot pour savoir comment les Français ont traversé 39-45, parce que là, ça a été difficile. Hein. Plus difficile que la Première Guerre.
Ah oui, beaucoup plus difficile. Pour les arrières, paradoxalement, c'était beaucoup plus difficile pour les arrières. Donc, restrictions, tickets de rationnement. Donc, il y a un très joli téléfilm et livre de Jean Dutour qui est au Bombeur. Donc, c'est la débrouillardise, c'est le marché noir. C'est pas toujours très glorieux. Mais la France s'organise avec peu et on apprend à manger des produits qui étaient en général réservés aux animaux. On parle des rutabaga, des choses comme ça.
Et donc, dans les années 50, on retrouve enfin le goût du bien manger. Et Kurnonsky, que vous avez évoqué, Thierry Marx, critique gastronomique de l'époque, le confirme.
Je voudrais dire que jamais on a mieux mangé en France que depuis la fin de la guerre, parce que la guerre a ramené les chefs à être obligés de faire des choses simples. On ne pouvait pas fourrer des truffes et du foie gras partout.
Voilà, faire des choses simples. Quelle a été l'influence des Américains avec le débarquement sur nos modes d'alimentation? Ça, c'est notre question.
C'est extraordinaire. D'abord, ça a été étonnant. Ils ont apporté un peu l'idée du supermarché. Ils ont amené tous les produits lyophilisés. Ils ont amené les bonbons, les chewing-gums, les choses comme ça. Et puis, des produits qu'on trouvait aux États-Unis, les produits supermarchés. La purée en flocons, c'est les Américains qui nous l'apportent.
Ils mangeaient vraiment différemment de nous déjà à l'époque?
Ils mangeaient différemment de nous parce que les supermarchés étaient déjà arrivés aux États-Unis. Entre les deux guerres, le commerce de la junk food est déjà très très présent aux États-Unis.
Alors ça, c'est pour l'alimentation de Monsieur Tout-le-Monde et pour la gastronomie. Où est-ce qu'on en est? Eh bien, posons la question à ce fameux Kurnonsky qu'on vient d'entendre, critique gastronomique et humoriste.
Je suis donc habitué depuis de longues années aux restrictions et j'ai commencé il y a 17 ans par me réduire au seul dîner, ce qui m'a permis également de me réduire de 136 kilos à 82, ce que l'on peut considérer comme une espèce de record gastronomique à l'envers. Néanmoins, je persiste à croire que la gastronomie n'est point morte en France et n'est qu'en sommeil. Elle reprendra vie, certainement, tant qu'il y aura en France les admirables vins de nos coteaux, le bétail de nos prairies, tant qu'il y aura les 482 fromages, et les produits que notre pays peut fournir.
Maurice Edmond Saillant dit Kurnonsky, donc pour illustrer cette émission, l'histoire à la carte, au-delà du trait d'humour sur son poids personnel. Ce qui est intéressant, c'est à la fin, il dit il y a toujours les bons produits, il y a toujours la gastronomie qui perdure.
Ça, c'est intéressant parce que la France renaît, sort quand même d'un grand conflit et on ne va pas perdre l'idée des terroirs, on ne va pas perdre l'idée des chefs, on ne va pas perdre l'idée de savoir être à table et de continuer à développer cette gastronomie française.
Qui sont les grands chefs d'ailleurs à l'époque? Alors, vous m'avez cité Fernand Poing, mais...
C'est Fernand Poing, c'est Alex Imbert, c'est le grand chef de chez Maxime et c'est Fernand Poing qui était la référence de l'époque, peut-être le plus communicant de l'époque.
Et à propos de Fernand Poing, justement, c'est ce que dit de lui un de ses élèves, Pierre Troisgros.
Monsieur Poing avait une vision de la cuisine beaucoup plus aérienne, beaucoup plus dépouillée. Et à ceux qui ont bien voulu le voir, il a fait comprendre qu'on n'était pas bloqué, comme on l'était à cette époque-là, sur des principes de recettes codifiés. Je prends un petit exemple bête. Si dans la recette, on mettait de l'estragon, puis nous, on avait envie de mettre du cerfeuil, pourquoi pas? Il a fait comprendre qu'on pouvait... chose qui n'était pas dans les mœurs.
Il a vraiment libéré un peu la cuisine, comme vient de le dire.
Il est le précurseur de la cuisine d'auteur. Donc il va ouvrir la porte des chefs créatifs et des chefs créateurs.
Les signatures de chefs,
eh bien ça commence avec Fernand Poing. Parce que personnalité importante.
Aujourd'hui, un plat à base de bœuf pour illustrer ces années 50.
Oui, parce que je voulais reprendre un grand classique de la gastronomie française, qui est inscrit d'ailleurs, on a parlé de Kurnonsky, on a parlé de Fernand Poing. Donc on va faire un filet de bœuf en croûte, ce qu'on appelle le filet de bœuf Wellington. Donc on va s'apercevoir que c'est pas très compliqué à faire finalement.
Mijoté
Alors c'est pas un plat mijoté, au contraire c'est un plat qui va être simplement poêlé, un filet, un morceau de filet de bœuf qui est simplement poêlé. Une duxelle de champignons, en fait, c'est des champignons hachés menus. Ensuite, on enrobe le filet de bœuf avec une pâte feuilletée et on va cuire au four 25 minutes. Ça paraît compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Et alors ça, c'est vraiment succès assuré à la maison.
La recette sur franceinfo.fr et l'émission L'Histoire à la carte à réécouter sur tous les sites de podcast. Merci Thierry Marx.
Merci.